Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8. Et nous allons relire la fin de ce chapitre. Ça fait quelques semaines que nous sommes dans ce chapitre 8. Et nous sommes en train de regarder la fin de ce chapitre. Nous allons lire à partir du verset 31. Romains, chapitre 8, à partir du verset 31. Voici la parole de Dieu. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et jusque-là, la parole de Dieu. Nous sommes donc à la fin de ce chapitre, c'est un passage que beaucoup considèrent comme étant un passage parmi les passages les plus merveilleux de la parole de Dieu. Et nous avons dit la dernière fois que, même s'il y a un cri de triomphe dans les paroles de l'apôtre Paul, Paul ne ferme pas les yeux devant les difficultés, devant les épreuves, de la vie chrétienne. Et en fait, il pose toute une série de questions, comme s'il s'adressait à l'univers entier. Des questions qui commencent avec ce terme « qui ose s'opposer au dessein de Dieu ? Qui peut accuser les élus de Dieu ? Qui peut les condamner ? Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ? » Mais ce passage est tellement connu qu'on peut perdre de vue que l'apôtre Paul, ici, est en train de suivre le prophète Ésaïe. Ésaïe, à partir du chapitre 40, Ésaïe annonce l'exil du peuple d'Israël à Babylone, et il voit aussi que Dieu va faire lever Cyrus comme un instrument pour délivrer le peuple, pour que le peuple d'Israël puisse retourner en Israël. Mais Ésaïe est conscient qu'il y a besoin d'un sauveur plus grand que Cyrus. Et dans la deuxième partie d'Ésaïe, on voit ce personnage qui est décrit comme le serviteur de l'Éternel. Et on le voit apparaître chapitre 42, chapitre 49, chapitre 50, et en particulier à la fin du chapitre 52 et tout le chapitre 53 comme le serviteur souffrant. Et au chapitre 50 d'Ésaïe, ce serviteur, qui est bien sûr une description du Seigneur Jésus-Christ, fait face au même problème que Paul décrit ici en Romains chapitre 8. En Ésaïe 50, verset 6, on lit ceci. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Des choses qu'on va relire dans les récits évangéliques de l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, Ésaïe continue, verset 7. « Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi ? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire ? Qu'il s'avance vers moi. » Voici le Seigneur, l'Éternel, me secourra. Qui me condamnera? Et dans la conclusion, Ésaïe dit ceci, Ésaïe 50, verset 10, « Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Et Paul fait exactement cela, ici dans ce chapitre 8. Paul nous enseigne en fait comment utiliser la parole de Dieu. Il nous dit, mais je me trouve dans cette situation, je suis opprimé. Il y a toutes ces pressions qui pèsent sur moi, toutes ces accusations, toutes ces tentatives pour me condamner. Il y a ces puissances dans le monde qui me donnent l'impression qu'elles sont capables de me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que en Christ, je peux dire exactement les mêmes choses à tout ce qui veut s'opposer à moi, à tout ce qui veut chercher à détruire ma foi. Même si je marche dans l'obscurité, même si je manque de lumière, je peux me confier dans le nom de l'Éternel et m'appuyer sur le Dieu de mon Seigneur Jésus. Et Paul regarde donc tout l'univers. Il pose ces questions. Qui peut m'accuser si Dieu est pour moi? Qui peut me condamner si Christ est mon substitut? Qui peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? On a le sommet ici de l'assurance, cette merveilleuse assurance que Paul parle depuis le début du chapitre 5 de cette lettre aux Romains. L'assurance qu'apporte l'Évangile, le droit de naissance, l'héritage de tout croyant. Et Dieu, qui est notre Père céleste, qui nous a unis à lui, qui nous a réunis à lui, veut que nous comprenions, que nous expérimentions ces réalités, que nous vivions ces choses dans nos vies, quelles que soient les pressions sur nos vies. En étant justifiés par la foi en Jésus-Christ, comme Paul l'a dit en Romains chapitre 5, nous nous réjouissons dans cette espérance certaine de la gloire de Dieu. La dernière fois, nous avons vu que, comment Paul nous enseigne qu'il n'y a aucune opposition qui puisse tenir contre le croyant. Et sur la base suivante, si Dieu nous a donné son Fils pour aller à la croix pour nous, il nous donnera aussi toutes choses pour nous garder et pour nous amener jusqu'à la gloire. Maintenant, Paul pose deux questions qui sont liées entre elles. Au verset 31, il a commencé par cette question, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Maintenant, au verset 34, il pose la question, qui accusera les élus de Dieu? Et au verset 34, qui les condamnera? Deux choses, l'accusation et la condamnation. Et Paul dit qu'il y a une accusation et une condamnation qui ne peuvent pas tenir contre le croyant. Et on a donc deux points. Ce matin, premièrement, l'accusation. Qui accusera les élus de Dieu? Et Paul, ici, dans ce passage, se révèle comme étant un grand pasteur, un excellent conseiller. Parce qu'après tout, Paul aurait très bien pu s'arrêter après la première question. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et en donnant la réponse, Dieu n'a pas épargné son propre Fils et il va nous donner aussi toutes choses avec lui pour nous garder jusqu'à la gloire. Voilà, je vous ai tout dit, passons à Romains 9. Mais Paul ne se contente pas de cela. Il sait qu'il est possible pour le croyant d'entendre tout ce qui est enseigné, mais de ne pas être capable d'appliquer l'enseignement à des situations spécifiques dans nos vies. Et voilà donc l'habileté de la compétence de Paul en tant que pasteur. Il va prendre les grands points de l'Évangile et il va en tirer les applications pour les détails de la vie chrétienne. Paul sait que les croyants sont confrontés à des accusations, à des condamnations, et il amène l'Évangile de Jésus-Christ à peser sur les détails de la vie. Et nous, on a besoin d'apprendre cela. L'Évangile impacte toute la vie, jusque dans les moindres détails. Qu'est-ce que Paul fait ici? Paul nous dit, nous nous sommes saisis de cette merveilleuse réalité que si le Père céleste nous a donné son Fils à la croix, pour subir la condamnation à notre place, alors notre salut est garanti. Il nous donnera toutes choses aussi avec lui. Mais Paul sait que le croyant peut saisir cette vérité et quand même se retrouver en grande difficulté. Et Paul veut donc s'attaquer à ces difficultés. Qui peut accuser les élus de Dieu? Si on regarde le ciel une nuit quand il n'y a pas de nuages, on nous apprend qu'on peut voir la lumière d'une étoile qui n'existe plus. Il y a énormément de temps pour que la lumière voyage depuis cette étoile. On peut voir la lumière aujourd'hui alors que l'étoile, elle est déjà morte, elle est déjà disparue. Et c'est une image de ce qui se passe ou ce qui peut se passer dans le cœur du croyant. On sait qu'il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix. On sait qu'il a versé son sang précieux pour le pardon de nos péchés. On sait que cette dette a été payée par le Seigneur Jésus-Christ. Et bien que nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, il semble parfois que la lumière de ce salut brille encore, mais que nous, nous croulons sous le poids des accusations, le poids des condamnations. Paul a parlé par exemple de cela au chapitre 7, de cette même lettre. Il a parlé, rappelez-vous, de la loi qui cherche à nous condamner, à nous accuser. Et Paul avait besoin encore de courir toujours à nouveau vers le Seigneur Jésus-Christ et de s'écrier « Grâce soit rendue à Dieu ». Même si la loi continue de m'accuser du péché parce que je suis encore pécheur dans le monde, je peux aller vers le Seigneur Jésus-Christ et me rappeler que le Seigneur Jésus-Christ me délivre de toute culpabilité et me délivrera un jour de tout péché. Dans sa première lettre, l'apôtre Jean écrit, 1 Jean 3, verset 20, « Si notre cœur nous condamne, qu'est-ce qu'on fait ? Si notre cœur nous condamne, Jean ne dit pas, mon cœur n'est pas aussi mauvais que cela. Non, il dit, Dieu est plus grand que notre cœur. Il ne veut pas dire que Dieu est plus fort que notre cœur. Mais il dit que Dieu a fait quelque chose de plus grand, de plus fort que la voix de mon cœur ou la voix de ma conscience. Dieu, dans sa grâce en Jésus-Christ, est capable de faire taire les cris de mon cœur qui ne cessent de dire « Tu es coupable, tu es un échec ». Et c'est tout ceci est d'actualité parce qu'on vit dans une société où le succès compte plus que tout. Beaucoup de personnes cherchent à faire taire la voix de leur cœur ou de leur conscience. Mais la seule façon d'adresser ces cris, c'est de les noyer dans l'assurance qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a pardonné de tous nos péchés. Et donc, ces accusations ne peuvent pas tenir pour celui qui est en Christ. Tout cela est vrai. Mais dire que la loi nous accuse, dire que ma conscience ou que mon cœur continue de m'accuser, ces deux choses répondraient à la question « Qu'est-ce qui accuse les élus de Dieu ?» Ce n'est pas la question de l'apôtre Paul. La question n'est pas « Qu'est-ce qui accusera les élus ?» Parce que la loi peut le faire, la conscience peut le faire. Non, mais Paul veut un nom. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a un accusateur qui est Satan lui-même. Il est décrit comme l'accusateur des frères, Apocalypse 12, verset 10. Il est décrit comme l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et on a besoin de savoir cela pour la stabilité dans nos vies chrétiennes. Il y a une merveilleuse illustration dans la prophétie de Zacharie. Zacharie reçoit la vision de Josué, le souverain sacrificateur, qui se tient devant l'ange de l'Éternel. Et dans Zacharie 3, verset 1, nous lisons ceci, « Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. » Puis au verset 2, il dit, « L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Et verset 3, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Ces vêtements sales sont une image du péché, une image de nos échecs. Et dans un sens, Satan a raison d'accuser Josué. Il dit à l'Éternel, dans la présence de Josué, le souverain sacrificateur, il dit, mais regarde ce souverain sacrificateur. Regarde ses vêtements sales. Comment est-ce qu'il est possible qu'il soit ton serviteur? C'est impossible. Et Zacharie continue, la vision continue. Versets 4 et 5, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Et le croyant doit se voir dans cette image. Quand Satan veut nous accuser, comme il le fait souvent, quand il vient remuer les cendres, les braises d'un péché que l'on a combattu et qui va reprendre vie, quand il vient nous rappeler à notre conscience que le péché existe encore en nous, et qu'ensuite il vient faire se présenter devant nous et nous dit « Mais qu'est-ce que je vois là dans ta vie ? Qu'est-ce que je vois là dans ton esprit, dans ton cœur ?» Ces accusations sont réelles, elles peuvent peser lourd sur notre cœur. Et parfois, on ne sait pas où aller. On a peur de révéler ces choses qui sont dans le privé. Et Satan lui-même est un maître chanteur, est un corbeau, comme on dit. Et il nous dit, ben, on va garder ces choses au secret, personne ne le saura, ça sera entre nous. Paul pose la question, qui peut accuser les élus de Dieu ? Quelle est la réponse ? Quelle est notre réponse ? Est-ce qu'on va dire, ben, j'ai essayé de faire mon mieux, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai eu un certain impact dans mon entourage, à travers mon témoignage, des personnes se sont converties. Rien de cela. Ce n'est pas la réponse de l'apôtre Paul. Toutes ces choses ressemblent à l'armure que portait David devant Goliath. Elles ne servent à rien dans ce combat. La réponse de Paul au verset 33, c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Si on se saisit de l'Évangile, on verrait qu'aucune de ces flèches enflammées du diable ne peut nous détruire. Parce que celui contre qui nous avons péché, celui contre qui nous péchons encore, est celui qui, dans sa grâce merveilleuse, nous a justifiés en Jésus-Christ. Et donc, il y a une futilité dans ce que le fait le diable. C'est un adversaire qui est vaincu, mais il se bat avec les dernières forces qui lui restent. La réponse, nous dit l'apôtre Paul, n'est pas en nous. La réponse ne se trouve pas dans les fruits de notre vie chrétienne. Aucun accomplissement de notre part n'est une armure suffisamment épaisse pour ce combat. Le bouclier qui nous protège, c'est le bouclier de la foi en Jésus-Christ. Dieu m'a donné son Fils à la croix pour me déclarer, pour me considérer juste. Je ne peux pas être plus juste que je ne le suis aujourd'hui, parce que Dieu m'a donné la justice parfaite de son Fils. Et il me voit revêtu de cette justice. Si on regarde à soi-même, si on regarde à sa propre justice ou à ses œuvres, les flèches enflammées de l'adversaire vont se planter en nous, les accusations de l'adversaire vont tenir contre nous. Mais Paul nous dit, il y a un regard où nous devons regarder, il y a quelqu'un vers qui nous devons courir, le Seigneur Jésus-Christ, la grâce de Dieu qui justifie en Jésus-Christ. Et donc, pour le croyant, l'accusation de l'adversaire ne peut pas tenir. Qui accusera les élus de Dieu? La réponse, Dieu, c'est Dieu qui justifie en Christ. C'est Dieu qui me déclare juste, qui me considère juste, qui m'a revêtu de la justice de Christ. C'est donc à lui que je regarde. Deuxième point, la condamnation, verset 34. Qui les condamnera? Encore une fois, on pourrait terminer ici et dire, voilà, Paul a tout dit, passons au chapitre suivant. Mais Paul sait que beaucoup de chrétiens souffrent du syndrome « oui, mais ». Oui, je sais que c'est vrai, mais. Oui, je sais que c'est vrai de beaucoup de personnes, mais je suis une exception. Il y a quelque chose de spécial au sujet de ma situation. Oui, je sais qu'aucune accusation ne peut tenir contre moi, mais je me sens condamné. On peut voir ça, par exemple, au milieu d'un culte, quand on ne se sent pas libre de louer le Seigneur parce qu'on se sent coupable de certaines choses. Ou alors quand on rencontre un incroyant, on est lent à lui témoigner de la joie d'être pardonné de nos péchés parce que nous-mêmes, on se sent encore condamné, parce qu'il y a quelque chose qui ne cesse de remonter à la surface, qui vient alourdir nos cœurs, qui vient nous condamner. C'est intéressant de noter que, avant de devenir chrétien, Satan cherchait à nous cacher notre péché en nous disant que ce n'était pas grave. Mais maintenant que nous sommes devenus chrétiens, Satan va chercher à exposer notre péché, à nous exposer notre péché en disant que c'est la chose la plus grave. Et certains chrétiens avancent en boitillant avec ce sentiment de condamnation. C'est pour ça que nous devons poser cette question comme que l'apôtre Paul pose ici. Qui est celui qui me condamnera? Et on doit apprendre à ne pas confondre notre propre conscience qui nous dit que nous ne sommes pas encore parfaits avec la voix de Satan qui insiste sur notre condamnation. Ce n'est pas une expérience que tout le monde connaît, mais c'est une expérience qui n'est pas aussi inhabituelle que cela, de sentir comme un doigt qui ne cesse d'être dirigé contre nous, qui ne cesse de nous dire « tu es condamné à cause d'un péché particulier ». Qui cherche à me condamner? C'est le thème du livre de Job dans l'Ancien Testament. Le thème de la souffrance dans Job n'est pas le thème le plus important de ce livre. Si on lit les deux premiers chapitres du livre de Job, on réalise que c'est un livre au sujet d'un combat spirituel. C'est un livre qui nous dit ce que Satan a l'intention de faire, ce qu'il a l'autorisation de faire par la providence de Dieu pour affliger cet homme, Job. Et ensuite, on voit les amis, entre guillemets, de Job qui viennent et qui disent à Job, « Job, ton problème, c'est ton péché. Si seulement tu admettais ton péché, tout redeviendrait comme avant. » Et Job va argumenter, va débattre avec ses amis. Vous dites que tel péché amène tel jugement. Donc ce que je vis est à vos yeux un jugement. Donc il y a un péché bien précis que j'ai commis. Mais Job va leur dire, je reconnais que devant Dieu, je suis pécheur. Mais ce qui m'arrive n'est pas le jugement d'un péché particulier. Et les amis, eux, ne lâchent pas. Et même la femme de Job, va se joindre aux amis en disant, mais abandonne, tu es un homme condamné. Il y a des moments dans le livre où Job pose la question, mais à Dieu, pourquoi me fais-tu cela? Et on voudrait crier à Job, mais attends, c'est pas Dieu, c'est Satan qui t'écrase. C'est lui qui a l'autorisation de t'écraser. En Job 9, verset 24, Job lui-même s'écrit, mais si ce n'est pas Dieu, qui est-ce donc? Et nous devons, nous aussi, nous poser cette question. Dans le voyage du pèlerin, au chapitre 13, John Bunyan écrit ceci. Il y a encore une chose que je ne dois pas oublier ici. C'est que ce pauvre chrétien était si étonné qu'il ne reconnaissait plus sa propre voix. Et je m'aperçus que vis-à-vis de l'abîme, un de ses méchants vint par derrière et s'approchant de lui doucement, lui soufflaient fort bas et fort vite dans les oreilles plusieurs affreux blasphèmes qu'il croyait sortir de son propre cœur. Et parfois, ça peut être notre expérience. Les flèches du diable sont enflammées. Elles ne sont pas réservées à quelques croyants. Qu'est-ce que je dois répondre quand Satan me condamne ou qu'il cherche à me condamner? La réponse de Paul, elle est là. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous voyez ce que Paul fait? Il sait que ce sentiment de condamnation peut être très lourd dans l'expérience du croyant. La réponse qu'il apporte, c'est la grâce immense de l'Évangile. Qui nous condamnera? Christ est mort. Toute ma condamnation, toute cette condamnation que je méritais, est tombée sur Christ. Elle a été déversée sur le Seigneur Jésus-Christ comme mon substitut, à ma place. Il est ressuscité. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est la preuve que Dieu a accepté l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie pour moi. À ma place, son sacrifice est suffisant. Si je fais face à l'accusateur, si j'ai le sentiment d'être condamné, je peux dire à l'accusateur, le Seigneur Jésus-Christ est mort à ma place. Il a subi la condamnation à ma place. Sa résurrection signifie que le Père l'a accepté, a accepté son œuvre à ma place. Et Paul de rajouter, Christ est à la droite de Dieu. Que fait-il? On n'a pas lu ce passage en hébreu, mais hébreu dit qu'il s'est assis. Il s'est assis parce que son œuvre est terminée. Tous les sacrificateurs de l'Ancien Testament, jour après jour, ne cessaient d'offrir des sacrifices. Ce n'était pas terminé. Le Seigneur Jésus-Christ s'est offert lui-même une seule fois et s'est assis à la droite du Père. Son œuvre est terminée. Il n'y a absolument rien à rajouter. Et Paul le rajoutait, Christ intercède pour nous. Nous sommes comme l'apôtre Pierre, après le chant du coq, vous vous rappelez, le Seigneur Jésus-Christ avait dit à Pierre avant qu'il ne le trahisse. Le Seigneur Jésus-Christ lui avait dit qu'il allait le trahir. Et vous pouvez imaginer Satan arriver auprès de Pierre après sa trahison en lui criant « Condamné, condamné, regarde ce que tu as fait, condamné !» Et Pierre se rappelle les paroles du Seigneur en Luc 22, versets 31-32. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Et il prie, il intercède pour nous, il intercède pour ses enfants. Le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ est un salut qui est tout suffisant. Christ est mort pour prendre ma condamnation. Il est ressuscité pour ma justification. Il est à la droite de Dieu. Il a terminé son œuvre. Il est assis. Et il intercède pour nous, pour son peuple. Qui, dit Paul, accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Les croyants qui sont au ciel sont sans doute plus heureux que nous, mais ils ne sont pas plus en sécurité. Notre sécurité est en Christ et en lui seul. Le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ est tout suffisant. Que Dieu nous aide à le comprendre et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.